La croissance verte n'existe pas, n'existe pas.
Alors la réponse est non, la réponse est non, non, non.
We will have to change, we will have to change. Hope is not blah blah blah. Blah blah blah.
Bonjour et bienvenue dans les décroissants tout chauds. Aujourd'hui, nous découvrons le livre fraîchement paru de la sociologue Monique Pinson-Charlot, intitulé « Les riches contre la planète, violence oligarchique et chaos climatique », paru aux éditions Textuelles. Monique Pinson-Charlot est sociologue, ancienne directrice de recherche au CNRS, spécialiste des grandes fortunes françaises. Chapitre 5, Don't Look Up, le déni cosmique. Le succès phénoménal de ce film, Don't Look Up, d'Adam McKay, diffusé le 24 décembre 2021 sur la plateforme Netflix, en dit long sur le sentiment de fin du monde engendré par le dérèglement climatique. Le scénariste, David Sirota, un ancien conseiller de Bernie Sanders, dénonce le déni cosmique avec l'inaction des politiques et des médias dominants face à la découverte par deux astronomes d'une comète qui va détruire la Terre dans les 6 mois. Mais cette comète n'est pas choisie au hasard comme métaphore de la catastrophe écologique, car elle est extérieure à la responsabilité humaine et permet de faire peur sans risque politique, le fatalisme l'emportant assurément. C'est le rêve des capitalistes qui est ainsi infusé la veille du jour de Noël dans l'attente de la naissance du petit Jésus. La sidération empêche en effet d'analyser la responsabilité du système capitaliste dans le chaos climatique, fruit de choix concrets au plan politique et médiatique. Le déni de la catastrophe annoncée concerne dans ce film les trumpistes et l'extrême droite, en épargnant les élites centristes et dites éclairées, ce qui renforce l'idée que la bourgeoisie libérale se fait d'elle-même. L'absence du peuple, de ses actions et de ses luttes, se fait à la faveur exclusive des scientifiques, seuls à même de pouvoir mettre fin à cette catastrophe. Par contre, les pillages des émeutiers consuméristes sont présents pour stigmatiser les gens de peu. Don't Look Up est donc du pain béni pour que les terriens puissent penser la fin du monde et pas la fin du capitalisme. Extrait de la bande-annonce du film.
Ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai. Ça peut pas être vrai. Ça peut pas arriver. Kate, dites-moi que ça peut pas vraiment arriver.
J'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui vous chiffonne.
Nous avons découvert une très grosse comète.
Oh, bravo. Qui se dirige droit sur la Terre.
Cette comète, c'est ce qu'on appelle une tueuse de planètes.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise.
Qu'on patiente et qu'on avise ?
On patiente.
Et ensuite, on avise. Il y a une première phase où on patiente et ensuite on digère. Ça, c'est la phase où on avise.
C'est la pire nouvelle de l'histoire de l'humanité et on s'est pris un vent.
On fait quoi? Il faut qu'on sorte l'information.
On l'a fait fuiter.
Nos invités du jour ont fait une impressionnante découverte dans l'espace.
Cette comète fait quelle taille environ? Elle pourrait détruire la maison de mon ex-femme, c'est possible?
Il y a 100% de chance qu'on crève tous! Je suis désolée.
Kate! Oh. Kate!
Ok.
L'astronome canon, on le réinvite quand il veut, mais celle qui nous hurle dessus... C'est moins sûr.
C'est moins sûr.
Un café? Un décroissant tout chaud?
Vous êtes bien sur Radio B, avec Gaëlle
et Lola.
Courage, fuyons. La préparation des milliardaires face à une planète en surchauffe. Monique Pinson-Charlot, les riches contre la planète. Dès les années 1970, les milliardaires américains dont la richesse est liée au pétrole, comme celle de David Rockefeller, sont inquiets des conséquences écologiques des extractions fossiles. En septembre 2001, Serge Halimi mentionne dans un article le penchant des riches pour les refuges en Patagonie. Soucieux de tolérance et de justice sur Terre, Luciano Benetton y possède 900 000 hectares. Ayant eu besoin d'eau pour ses milliers de moutons mérinos, il a détourné une rivière dont les ressources étaient cependant vitales à une population indienne vivant en aval du fleuve. Ted Turner s'est lui aussi acheté un ranch dans cette région désormais envahie de ranchs hollywoodiens pour milliardaires écologistes. Ces terres de Patagonie sur la côte de l'océan Pacifique, avec des lacs aux eaux cristallines et des forêts, constituent un véritable paradis qui a été en partie privatisé et bradé au Chili. Cet accaparement permet en outre aux riches chiliens et étrangers de se présenter aujourd'hui en investisseurs, responsables de la nature, engagés dans la préservation de l'environnement et notamment des arbres emblématiques des terres d'autrefois, comme l'alerce, parent direct du séquoia. Mais la justification écologique est surtout un prétexte pour que les créateurs de richesses n'apparaissent pas comme de vulgaires fuyards face à la peur, de la colère des peuples. Plusieurs dizaines de patrons de la Silicon Valley, selon Pierrick Marissal, ont également acheté des terres en Nouvelle-Zélande pour se préparer aux conséquences sociales et politiques du dérèglement climatique. Le milliardaire américain Reid Hoffman, un homme d'affaires, capital risqueur et cofondateur du réseau social professionnel LinkedIn, s'exprime ainsi dans le New Yorker. Le pays va-t-il se retourner contre les riches? Contre l'innovation technologique? Est-ce que ça va se transformer en désordre civil? En tout cas, plus de 50% des milliardaires de la Silicon Valley ont pris, d'une manière ou d'une autre, une assurance contre l'apocalypse. Les riches anticipent donc une guerre de classe, lorsque les peuples auront compris qu'ils ont été manipulés, qu'on leur a fait croire à une transition écologique, alors que le capitalisme continue à permettre aux dominants d'engranger toujours plus de dividendes au détriment de la vie sur Terre, en cumulant le capitalisme fossile et le capitalisme vert. Beaucoup trouvent que la Nouvelle-Zélande est le meilleur endroit pour y faire face. Un pays qui ne connaît pas d'ennemis a peu de chances d'être la cible d'une bombe nucléaire, est composé de nombreuses îles où s'isoler, avec de l'altitude pour faire face à la montée du niveau de la mer, de larges territoires inhabités, peu de pollution. Rien qu'en 2016, 13 000 riches américains y ont demandé un permis de construire. Au point que la Nouvelle-Zélande a dû prendre des mesures contre cette ruée immobilière afin de maîtriser la hausse des prix dans le bâtiment. Cette ancienne colonie anglaise, bien qu'étant très éloignée du continent européen, est majoritairement peuplée de descendants de colons venus notamment de Grande-Bretagne, ce qui facilite la possibilité d'y retrouver des racines idéologiques et de s'y sentir à l'aise dans une forme de nouvelle entre-soi. Le milliardaire Peter Thiel, fondateur de PayPal et de Palantir, a lancé le mouvement en 2015 en achetant pour près de 12 millions d'euros une ferme et près de 200 hectares de terrain sur les rives du lac Wanka dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Il y a fait construire une pièce ultra sécurisée. Avec 4 autres entrepreneurs de la Silicon Valley, dont Sam Altman, patron de Y Combinator, ils gardent toujours un avion prêt à s'envoler et à traverser 7000 km au-dessus du Pacifique au moindre signe d'apocalypse ou de révolte sociale. La volonté de sécurisation peut aussi se concrétiser par des bunkers blindés réalisés sous terre par une entreprise californienne, Terra Vivos. La quiétude des gens de fortune doit être en effet garantie pour le temps long des dynasties familiales. Quelle que soit la menace, nos abris sont construits et conçus pour résister à peu près tout, du changement de pôle aux éruptions de volcans, en passant par les tremblements de terre, les tsunamis, les pandémies, les explosions nucléaires, les catastrophes biologiques ou chimiques, le terrorisme et même l'anarchie généralisée, annonce sur son site le groupe Vivos, basé en Californie. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a jeté lui son dévolu un peu plus haut dans le Pacifique Nord en achetant une petite île au large d'Hawaï. Il a payé les poignées de familles présentes sur ses terres qui cultivaient de la canne à sucre pour partir. Il entend s'y faire bâtir une propriété et une ferme bio de 27 hectares, en autosuffisance totale, un investissement à plus de 100 millions de dollars pour assurer sa seule survie et celle de sa famille. Comme quoi, « Après moi le déluge » n'est pas qu'un proverbe, mais bien une philosophie de vie. Nous écoutons la bande-son de Don't Look Up, composée par Nicolas Britel. À bientôt sur les bonnes ondes de Radio B.